Bonsoir à tous et bienvenue en ce mercredi 27 décembre sur les ondes de Radio B à l'écoute de La Fabrique de la Culture. La culture, c'est bien d'elle dont il s'agit dans notre fabrique. Est-ce elle aussi la culture qui est mise en avant lors de l'hommage national rendu à Jean d'Ormesson et lors de l'hommage populaire rendu à Johnny Hallyday? Deux grands messieurs ont tiré leurs références et cela a fait grand bruit. Sans que l'on puisse prétendre néanmoins que l'un aurait volé la vedette à l'autre lors de leur dernière et définitive sortie de scène. Journalisme, littérature et philosophie représentent l'univers de l'un, tandis que le second vivait en musique et en chanson. Il me semble bien, en écoutant l'énumération de ces deux univers, qu'ils appartiennent bel et bien à ce que chacun nomme la culture. D'accord ou pas d'accord avec l'ampleur de ces hommages, d'accord ou pas d'accord avec l'unanimité autour de leur personnage public, il est en tout cas impossible de nier le fait que l'ampleur de ces manifestations nous rappelle l'importance de la culture. Pourrions-nous vivre sans musique, sans chansons, sans littérature ou sans presse, pour ne citer que les derniers éléments évoqués? Continuons à revendiquer l'urgente nécessité de la culture culturelle, puisqu'enfin la culture économique commence à voir ses droits reconnus, ou au moins sa nécessité d'être.
Radio B.
Aujourd'hui sur la Fabrique de la Culture, Alicia et Michel pour nous parler culture. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir Catherine.
Michel, tu t'es intéressé à deux spectacles proposés prochainement par le Théâtre de Bourquin.
Oui, d'abord Édouard II de Christopher Marlowe. Édouard II était un roi d'Angleterre au début du XIVe siècle. En fait, cet Édouard II était faible. Il n'était pas fait pour être roi et d'ailleurs, il ne le désirait pas. Mais malgré cette faiblesse, il a cru pouvoir s'autoriser toutes les transgressions. Il s'est entiché d'un mignon, Gaveston, qu'il a imposé à la cour. Évidemment, les barons de cette cour du roi n'entendaient pas se laisser humilier et ils sont entrés en conflit avec lui. C'est en tout cas ce que raconte cette pièce de Christopher Marlowe, les dernières années du règne d'Édouard II, en prenant toutefois quelques libertés avec l'histoire. Christopher Marlowe, je rappelle, était un dramaturge contemporain de William Shakespeare.
D'accord.
Il est mort en 1593 dans des conditions assez mystérieuses d'ailleurs, violentes en tout cas. Il n'avait pas encore 30 ans, il a été soupçonné d'espionnage et puis de fricoter avec les catholiques, les hérétiques, les athées, les faussaires, etc.
Et d'autres encore ?
Sûrement. Ce qu'on sait de sa vie, outre sa réputation sulfureuse, c'était son homosexualité et son talent pour l'écriture dramaturgique et poétique. Alors assurément, il a été moins prolixe que son contemporain William, et pour cause, il a vécu moins longtemps, mais il a laissé une œuvre forte, non dépourvue en cruauté. Et cet Édouard II en est un exemple, le règne et la pièce d'ailleurs, se terminant dans un carnage. Cette pièce sera jouée par la compagnie Ring Théâtre, qui donnera deux représentations à Bourg, les 17 et 18 janvier 2018, l'année prochaine, très bientôt. Le metteur en scène, Guillaume Fulconis, livre ici quelques infos sur les parties pris de leur création, avec le concours de deux des comédiens, Côme Thiolin, qui interprète le roi, Édouard II lui-même, et Charlotte Dubez, qui interprète son fils, Édouard III.
L'histoire d'Édouard II, c'est donc toute l'histoire du règne d'Édouard II, roi d'Angleterre. La pièce commence sur son couronnement et jeune prince, il a scandalisé la cour par ses frasques et surtout par son amour pour Gaveston, qui est un Français de petite noblesse qui était à la cour du roi d'Angleterre. Et donc ça a tellement scandalisé que les nobles ont demandé à ce qu'il soit banni parce qu'on pensait qu'il avait une mauvaise influence sur le prince. Évidemment, la première chose qu'il fait, c'est de lever le bannissement de Gaveston et de le rappeler à la cour, ce qui scandalise les nobles. Et donc c'est le début d'une guerre civile. Qu'est-ce que nous on voit de ce Moyen-Âge? Alors il faut trouver des signes équivalents ou qui nous racontent. Là par exemple, très clairement le problème qu'on avait, c'est que quand on a commencé à répéter comme ça, sans costume, les barons n'étaient pas crédibles. Parce qu'ils ont des armures et c'est des brutes épaisses. Alors, tout ce qu'on faisait, par exemple, faire allégeance, se mettre à genoux, là, etc., en costard ou en costume contemporain, c'était assez ridicule. Et puis, à un moment, Julien, qui a regardé un petit peu sur Internet, qui a vu qu'il y avait une équipe de football américain à Besançon, puisqu'on va péter ici, qui les a appelés, qui a dit « Ah, les gars, vous voulez pas nous prêter des carapaces, là ?» Et donc, je vois débarquer les acteurs un matin, comme ça, avec leurs carapaces, et tout d'un coup, tout ce qui marchait pas, marchait. Parce que il y avait... Bah, ils avaient une armure. Et, parce que c'est une armure, en fait, une protection de football américain... Les postures d'allégeance ou de garde ou de soldat dans un camp, c'est pas si différent que ça qu'une équipe de football américain qui est au salut, qui est devant l'entraîneur, qui est sur un banc de touche. Puis ça nous amusait aussi parce que les barons par rapport à Edouard, c'est un peu les conservateurs, les gens qui sont les vieilles valeurs, l'ancienne, etc. Et Edouard, c'est déjà un baroque qui arrive. Alors on n'est pas encore à l'époque baroque, mais c'est déjà un moderne, un ami des arts, etc.
On a cherché le côté humain, très humain du roi et sa relation avec Gaveston, donc une relation amoureuse, donc finalement très humaine. Et les barons sont plus dans un truc franc, direct, dur, avec les lois, la religion pareil qui intervient, c'est comme ça que ça se passe, on peut pas agir politiquement par amour, tout ça c'est pas possible. Et lui comprend pas ça parce qu'il est passionné, amoureux, tout simplement.
Joue Édouard III, donc fils d'Édouard II, donc je suis pas née, je nais pendant l'acte 2, c'est ça, au milieu de l'acte 2, je nais. Donc tout l'acte 1, je le passe sur cette machine à laver.
J'avais l'envie d'avoir un peu tout le monde, d'être la bande quoi. Ouais, pourquoi on les planque derrière les rideaux quand arrivent les spectateurs, les techniciens, il n'y a pas de raison.
Voici donc quelques petits éclairages sur cet Édouard II qui sera donné, on l'aura compris, dans une mise en scène peu conventionnelle. Vous avez entendu des carapaces de joueurs de foot américains, une machine à laver, des guitares électriques, tous les comédiens présents sur scène, qu'ils soient en jeu ou pas, mais aussi le régisseur, la costumière, l'accessoiriste. Cette prise de distance par rapport à un texte est une situation très, très âpre, cruelle. C'est du Marlowe, je le rappelle. Ce décalage donne de la légèreté, une sorte de respiration, dans une agitation tonitruante. Le metteur en scène a aussi beaucoup élagué le texte de cette pièce fleuve qui pourrait durer 4 heures. Mais il a voulu conserver ce qui fait la force du texte de Marlowe, démonter les mécanismes de la passion, les intrigues de cour, les alliances politiques, les coups bas, les bassesses humaines. Guillaume Fulconis, le metteur en scène avec Édouard II, cherche à appréhender la violence du pouvoir et à montrer la perversité des jeux politiques. Il pose la question de la légitimité des institutions qui ont porté au pouvoir, chez nous ou chez nos voisins actuellement, des dirigeants impuissants qui se jouent de l'intérêt général. Cet intérêt général qui est aussi bousculé par nos propres désirs individuel, de liberté et de jouissance. Le théâtre est pour le metteur en scène une forme de lutte, une résistance contre notre désir inadmissible de renoncement. Le choix de la modernité, de la mise en scène, ne relève donc pas tant de la cosmétique pour faire mieux passer une pièce pesante, mais de la volonté de montrer l'actualité dans notre monde d'aujourd'hui d'un texte qui est vieux de plus de 420 ans. Au demeurant, sa compagnie s'appelle le Ring Théâtre. Ring parce qu'elle veut un théâtre musclé, de confrontation et de fair-play, de fête, de rassemblement. La jeune compagnie s'est formée notamment à l'ENSAT de Lyon et est parrainée par l'original et efficace Théâtre de l'Unité d'Audincourt dans le pays de Montbéliard. Avec cet Édouard II, on nous promet du rire, du bruit, de la fureur, du sang et des larmes. Donc, probablement pas une belle petite soirée au théâtre, mais plus sûrement un grand moment de spectacle et d'énergie. C'est au Théâtre de Bourg, les mercredis 17 et jeudi 18 janvier à 20h.
Ça donne envie quand même hein, d'aller voir un si vieux texte mis en scène de façon contemporaine. On se donne rendez-vous. Et le second spectacle, Michel ?
Le second spectacle, c'est « Marcher tout droit est un combat » qui est issu d'un quadruple croisement entre une compagnie, des groupes d'habitants de l'Ain, un auteur et un théâtre. La compagnie, c'est Bande d'arrêt d'urgence, qui est une compagnie lyonnaise qui était depuis 2015 jusqu'à la fin de cette année 2016, la compagnie associée de la maison départementale du théâtre de Jasseron.
Et qui ne l'est plus.
Jusqu'à 2017, hein, fin 2017.
Jusqu'à 2017, voilà, plus tôt. Les groupes d'habitants, eh bien, ils ont été constitués autour de la maison du théâtre entre janvier et mai de cette année pour des ateliers d'écriture et de jeu théâtral avec les artistes de bandes d'arrêt d'urgence, justement. Il y avait 5 groupes à Val-Revermont, à Nantua, à Farin, à Champagne en Val-Romais et à Morvel. Les thèmes de ces ateliers étaient l'engagement et la fratrie, c'est-à-dire les thèmes qu'on retrouve dans la création qui était alors en devenir « Marcher tout droit est un combat ». Les auteurs amateurs qui participaient à ces ateliers d'écriture ont produit de nombreux petits textes très différents. Ces textes ont donné lieu, d'une part, à une restitution publique en mai dernier au Centre culturel de rencontre d'Ambronay, et d'autre part, à des enregistrements sonores avec les écrivains amateurs eux-mêmes. Ces enregistrements, on les entendra autour des représentations du spectacle « Marcher tout droit est un combat » prochainement. Ensuite, le troisième élément, l'auteur, c'est Simon Grangeat, qui a écrit le texte à la demande de Corinne Méric, la metteuse en scène de la compagnie Bande d'arrêt d'urgence. Et on retrouve d'ailleurs dans son texte des éléments qui ont été produits dans les ateliers d'écriture qu'il avait accompagnés au premier semestre. Et enfin, le quatrième élément, c'est le théâtre de Bourg, qui accueille en résidence la compagnie Bande d'arrêt d'urgence pour cette création. Bon, je le rappelle, ce système de résidence qui fait partie des missions demandées au théâtre consiste à offrir à plusieurs compagnies locales qui n'en ont pas les moyens des conditions de répétition de très bon niveau, c'est-à-dire des locaux bien équipés et une assistance technique. Alors de ce quadruple croisement est en train de naître ce spectacle de théâtre « Marcher tout droit est un combat » qui sera présenté pour la première fois le 23 janvier prochain. J'ai capté ce que Corinne Méric disait sur ce spectacle lors d'une séance publique de répétition il y a de cela quelques semaines, et elle nous donne quelques clés sur cette création, sur l'écriture, sur la scénographie, etc.
La compagnie est depuis 3 ans associée à la Maison du Théâtre, là ça va se terminer en décembre. Dans le cadre de ce partenariat, on a fait plein de projets avec des habitants, et parmi ces projets, on a fait un projet qui s'appelle « Marcher », qui était en amont de « Marcher tout droit est un combat », et qui était composé d'ateliers d'écriture avec Simon Grangeat, autour de la thématique de la fratrie, autour de la thématique de l'engagement. Et l'an dernier, on a fait un projet où à la fois il y a des ateliers d'écriture et des ateliers de jeu. Il y a eu une sorte de rendu de ces ateliers à l'abbaye d'Ambronay, où il y a eu un spectacle déambulatoire à partir des écrits des habitants et du jeu, et puis aussi de textes sur la fratrie. Moi, j'ai envie de travailler sur la fratrie. Depuis un an et demi, j'avais déjà travaillé avec Simon Grangeat, qui est un auteur qui écrit plutôt du théâtre, je dirais du réel, issu du réel, théâtre documentaire même des fois à la limite. Moi, j'ai plus une approche de metteur en scène d'un théâtre plus onirique, on va dire, et intimiste. La rencontre s'est faite justement parce qu'on s'est dit que ces deux univers apparemment très éloignés, à quel endroit on pouvait se retrouver et à quel endroit ce qu'on vit dans le réel et ce qu'on vit intimement, comment à un moment donné l'extérieur, l'intérieur, l'intime et le collectif peuvent se croiser et même parfois se ressembler, comment l'infiniment grand et l'infiniment petit d'une certaine façon pourrait être la même chose. Et donc voilà, on avait eu envie de croiser nos deux univers avec Simon. Et donc, moi, je lui ai parlé de la thématique, la fratrie. Lui, il s'est emparé de cette thématique et puis il a amené un peu qu'est-ce qui aujourd'hui le questionnait, de quoi il avait envie de parler lui aujourd'hui. Il s'est trouvé qu'il avait envie de parler des zones à défendre, de partir de cette histoire-là, de l'histoire de Rémi Fraisse. Au départ, j'avoue que c'était pas, j'étais pas dans ce combat-là du tout. Enfin, en tout cas, ça me questionnait, bien sûr. J'écoute les infos, je m'intéresse. Mais je me dis, bah oui, pourquoi pas? Parce qu'il se trouve que Rémi Fraisse, il a une sœur. Enfin, il avait une sœur qui, au moment où il a été tué, il y a eu un quiproquo. Enfin, il y a une histoire avec une sœur de Rémi Fraisse dans le réel. Donc, il est parti de ça, de comment un frère et une sœur pouvaient avoir deux vies complètement différentes et comment, à un endroit de l'intime, il y a une reconnaissance commune, quelque chose, un fil un peu invisible qui relie un frère et une sœur. Donc, c'était un peu ça l'idée de départ. Et on a commencé à discuter, le texte n'était pas du tout écrit. Et là, on s'est mis à parler des Indiens Guarani qui sont chassés de leurs terres par les fermiers donc au Brésil. On a un peu fait le parallèle avec ces zones à défendre, c'est comment trouve sa place sur cette terre, comment cette terre-là raconte quelque chose de ce qu'on est. Donc on a fait un peu le parallèle entre la ZAD, c'est-à-dire un combat assez local, on va dire, et pour nous en tout cas, et puis un combat beaucoup plus lointain, qui est le combat des Guarani pour retrouver leur terre. Il y a dans les légendes Guarani, il y a vraiment l'idée de marcher à la recherche de la terre sans mal. Donc l'idée de la marche, parce qu'en fait le titre « Marcher tout droit est un combat » est vraiment arrivé avant. En fait, avec Stéphanie, on s'est dit qu'on avait envie effectivement de partir d'un théâtre, d'un plateau brut, en chantier, dans cet endroit en chantier, en transformation, l'histoire va se raconter. C'était vraiment aussi par rapport aux images qu'on a vues, qu'on a regardées de Sivens, où voilà, c'est un endroit qui est un espèce de no man's land, c'est pas encore ce que ça va devenir, ça va bouger. Donc c'était un peu cette idée-là, mais de partir vraiment de l'endroit du théâtre, qui est aussi l'endroit de la fabrication de l'histoire. Donc il y a des moments où il y a des flashs, on appelle ça des flashs, enfin Simon l'a appelé ça des flashs, c'est des jeux d'enfants, voilà, du frère et de la sœur. Et c'est aussi ce qui se passe dans la tête de Nadine, Lucia. Parce qu'en fait, ces retours qu'elle a dans l'enfance l'aident à marcher et à prendre des décisions. On a vraiment un personnage qui part qui subit une action, enfin dans l'histoire, hein, qui subit, qui se perd, et puis à un moment donné, qui décide de prendre un chemin et de se battre. On va aussi, l'idée, c'est qu'il y ait à la fois des projecteurs à vue, mais aussi des moments où d'un coup, on se retrouve dans le plus intime et on ne sait pas où est la source, et voilà. Enfin, c'est vraiment ces passages du réel au rêve, comment le rêve et la réalité peuvent se croiser, se rencontrer. Et que peut-être tout ça ne se passe que... c'est peut-être un rêve de Lucia, quoi. Et qu'elle elle convoque tous ces personnages qui vont l'aider à comprendre et à retrouver, enfin, à comprendre ce qui est arrivé à son frère.
Marcher tout droit est un combat sera joué au Théâtre de Bourg les mardis 23 et mercredi 24 janvier à 20h. À 18h, le 23 janvier, au théâtre sera projeté le film documentaire réalisé par Thierry Valino sur les différentes étapes de réalisation du projet.
To a man, the rape you under order.
Le duo écossais s'appelle Les Deux Furieuses et la chanson s'intitule « Are we sexy enough ?» Un très beau texte sur le viol. C'est d'actualité, hélas.
Radio B, Radio B.
Un projet de territoire participatif, tout comme la visite textile proposée par les soirées Bonnet. Alicia.
Une invitation à la danse, oui Catherine. Le rapport entre le tissu et la danse, aucun a priori. Eh bien, au musée des soirées Bonnet à Jujurieux, on a fait le lien entre le tissu et la danse, et cela pendant une journée et une soirée. Alors aujourd'hui, le musée des soirées Bonnet, c'est le plus gros fonds du patrimoine de l'industrie textile au monde. Ce sont 300 000 objets et documents qui répertorient toutes les étapes de création d'une étoffe et de la vie d'une usine pensionnat. Donc c'est vraiment passionnant cette visite, je vous la recommande vivement.
Je suis d'accord.
Ouais. Et pour valoriser les collections, parce qu'elle est tellement énorme que c'est impossible de la présenter entièrement de manière permanente, des cycles événementiels sont organisés et ce sont les fameuses liaisons soyeuses. Nathalie Foron-Dauphin, qui est responsable scientifique et culturelle du musée des soirées Bonnet, est partie du nom d'un des foulards. Invitation à la danse, ça ne s'invente pas. Pour proposer au public une visite commentée un peu particulière, avec découverte sensorielle et intermède dansé, pour pouvoir toucher les étoffes, expérimenter le principe du cocon et découvrir le principe également du tissage.
Le point commun, quelque part, entre la danse et le tissu, c'est ce qui est découverte sensorielle. Et les deux sont intrinsèquement liés. Il n'y a pas de spectacle de danse, enfin, sauf exception, sans étoffe. Et l'étoffe, c'est toute une découverte aussi liée au corps. Donc, il y a vraiment des points de connexion entre le corps, le tissu, bien sûr, et aussi la danse, la mise en mouvement. Et même sur la musicalité du métier à tisser, on peut trouver un écho au mouvement du corps. Alors, le principe de la visite, c'est de découvrir donc le patrimoine des soirées Bonnet autrement. Le fil conducteur reste l'histoire des soirées Bonnet, la découverte du patrimoine. Et on a des intermèdes dansés, des intermèdes sensoriels pour, au-delà d'admirer les étoffes, pouvoir toucher des étoffes, s'enrouler dedans, comprendre comment le cocon naît, le cocon de verre à soie, en se transformant en cocon, découvrir le principe du tissage en entremêlant normalement des fils, mais là avec de grands pans de mousseline de soie.
Je ne sais pas si vous connaissez la légende du dévidage du précieux fil de soie, à partir du cocon. Eh bien, l'idée de départ, en fait, on raconte, alors j'ai pas pris mon petit cocon, je vous en montrerai un tout à l'heure, on raconte qu'une jeune princesse chinoise qui prenait son thé sous un mûrier, le mûrier qui sert de nourriture exclusive au verre à soie, voit tomber quelque chose dans sa tasse. Quelque chose tombe, elle cherche à le ramasser, et ce faisant, en fait, elle a ramassé le premier fil d'un cocon de soie. Et l'aventure du dévidage serait née ainsi des mains de cette princesse chinoise. Alors, je voudrais vous proposer une petite expérience, c'est-à-dire de vous transformer en verre à soie qui va faire son cocon. Une fois que le verre à soie est arrivé au cinquième âge, eh bien, il s'arrête de manger et il file son cocon pour pouvoir se transformer en chrysalide et enfin en papillon. Et il va s'enrober comme ça dans près d'un kilomètre de fil qui vont le protéger.
La commande, c'était vraiment de créer du lien entre le public et les collections textiles à travers la danse. Et de magnifier la soie, si besoin en est, à travers le mouvement et de montrer que c'est tout l'aspect vaporeux de la soie, voilà, et également aussi de faire comprendre comment on crée un tissu, comment on le met en mouvement à travers la danse.
Vous allez faire la chaîne du métier à tisser. Donc on va tendre la chaîne sur le métier à tisser, en sachant que sur le métier à tisser, la chaîne est sur ce gros rouleau que vous voyez à l'arrière, que l'on retrouve ici, qui est fait sur cette machine, qui s'appelle un ourdissoir, qui permet d'ourdir la chaîne, c'est-à-dire de constituer le fil de chaîne, pour la mettre ensuite à l'arrière du métier à tisser. Ce que je vous propose, c'est de tendre la chaîne. Donc vous passez le bout du tissu, le grand tissu. Voilà, donc là on est en train de tendre la chaîne. Il nous faudrait, allez, 6 trames. Qui fait la trame? Allez. Le principe, c'est dessus-dessous. Donc on passe une trame, l'autre ensuite dans l'autre sens, etc. Donc je vais vous guider.
Le tissage grandeur nature d'une étoffe, c'est pas une mince affaire. Ce jour-là, j'ai également rencontré Delphine Caron, qui est danseuse et chorégraphe de la compagnie Point Zéro. Elle a conçu les intermèdes dansés, elle a également travaillé à la conception du bal textile, un bal où chacun et chacune a pu venir esquisser quelques pas de danse sur la musique live d'Eric Mung, et bien sûr avec des tissus de soie entre les mains. Mais alors, y a-t-il un lien entre le tissu et le corps?
Alors, c'est vrai que on peut le considérer comme une prolongation, en fait, de son propre mouvement. C'est-à-dire, de manière plus un peu aussi philosophique, c'est de dire que chaque chose que l'on touche est un prolongement de soi-même. Donc, il est important de faire attention aux objets, à ce que l'on porte, aux messages que l'on divulgue, aux actions que l'on fait, etc. Et que les objets sont aussi précieux que nous et que c'est important de communiquer avec eux, de savoir communiquer, de comment on communique avec eux. C'est peut-être une façon de se remémorer que les objets et nous ne faisons qu'un dans l'univers.
On allonge la colonne, on sent.
En fait, ce bal a été créé vraiment uniquement pour... Enfin, uniquement, nous allons sans doute peut-être le refaire, mais en tout cas, il a été vraiment conçu pour travailler avec les textiles. Et il fallait qu'on soit plus nombreux pour aussi transmettre la proposition et voir comment elle passait dans des corps qui n'ont pas l'habitude. Et également aussi qui se servent, en fait, les ambassadeurs vont nous servir ce soir à aussi driver, accompagner les participants qui n'ont pas du tout l'habitude, donc que ça soit une gestion d'espace, une gestion d'écoute, une gestion temporelle, enfin, c'est des sortes de soutien. C'est des soutiens, et à la fois, comme c'est des gens avec qui j'ai l'habitude de travailler, ils étaient ravis de tester les propositions. Ensemble ce groupe donc d'Eric Mung, puisqu'il est festif, dansant, c'est des musiques actuelles mais très entraînantes, et forcément pour le rapport à la danse, il s'agissait surtout de répondre à l'énergie, c'est-à-dire on travaille vraiment sur des choses lentes, donc avec des tempi lent, et puis quand les musiques s'accélèrent, on met en jeu le corps de manière beaucoup plus vive et joyeuse.
Pendant ce bal, Delphine Caron a proposé aux participants de se bander les yeux.
D'un point de vue sensible, si on occulte un sens, on développe une autre écoute au reste du corps et aux autres sens. Donc ça permet d'avoir une autre vigilance, une autre perception de ce que l'on est en train de faire. Donc ça met une sorte de danger, de péril et d'excitation à découvrir, à se découvrir autrement dans des nouveaux mouvements, des nouvelles façons d'interagir avec soi-même.
Un bal de soie pour partir à la découverte de soi.
C'est joli ça.
Et oui, c'est pas moi qui l'ai inventé, je vous rassure. Une journée consacrée à la danse et au tissu, au musée des soieries Bonnet. De nouvelles animations sont prévues pour l'année 2018. Je vous recommande de consulter la page des soieries Bonnet sur le site www.patrimoine.fr. Et puis, je vous propose une interprétation live de Cream, avec l'accent, s'il vous plaît, de Prince, par le groupe d'Eric Moung. C'est mieux avec l'accent, non ? Allez, bonne écoute.
Master. fever. When you kiss me, fever the whole time. Oh, fever in the morning, fever all through the night. You give me fever. You give me fever.
Vous êtes toujours sur Radio B à l'écoute de La Fabrique de la Culture. La compagnie du même nom, c'est la compagnie Arphonème qui a changé de nom. Michel, c'est ton troisième sujet.
Oui, puisque le vocable Arphonème est réservé maintenant au lieu et à l'association de gestion. La compagnie du même nom, donc l'ancienne compagnie Arphonème, propose sa dernière création sur le mythe et le mystère que fut et qu'est encore ô combien la petite bergère Lorraine, qui a eu un destin peu commun après avoir entendu des voix, puisqu'elle a dû, elle est partie pour lever le siège d'Orléans, conduire le roi à se faire couronner à Reims, se porter chef de guerre, contribuer à mettre un terme à la guerre de Cent Ans, et finalement mourir brûlée vive sur une place de Rouen. Tout ça à peine 20 ans, c'est en effet peu commun, même à l'époque. Vers les années 1420-1430, les temps étaient durs.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà, donc vous avez bien compris que je parlais, et ce spectacle parle de Jeanne d'Arc.
Oui, la fameuse Jeanne d'Arc.
Éric Girard, le metteur en scène de cette compagnie, a tricoté ce récit animé de Bergère de France à partir de textes de différentes époques, contemporains de Jeanne pour certains, avec des documents précieux sur son procès, ou beaucoup plus récents, avec notamment de très beaux textes d'une grande poésie de Joseph Delteille. Delteille, c'est la première moitié du XXe siècle. Récit animé par deux comédiennes, Aurélie Giraudon et Pascal Pogam, habillés en Women in Black, qui, durant 1h45, à deux, évoquent plusieurs aspects du mythe, la bergère, la pucelle, la fille de paysan pauvre, mais finalement pas si pauvre que ça, enfant caché, etc. Les comédiennes sont remarquables, c'est souvent drôle, le mélange de textes tantôt authentiques, dramatiques ou poétiques, tantôt potache, les calembours, les ruptures de tonalité, les propos déjantés, eh bien ça fonctionne, même s'il est parfois difficile de suivre le fil. Ça commence avec la grande Mireille, Mathieu bien sûr. Hein.
Bah, tant qu'à faire.
On y entend beaucoup de Michel, le saint du même nom qui a fait entendre sa voix à Don Rémy.
Saint-Michel, oui.
Donc c'est lui qui a causé à l'oreille de la petite Jeanne. Mais aussi dans les Michel, on entend Polnareff ou Sardou. Dans le Notre Père récité, on retiendra d'elle « Ivrez-nous du mal ». Voilà, ça fait partie des calembours que le spectacle nous sert.
Et c'est d'actualité puisqu'ils ont modifié la prière.
Je vois que tu connais bien ça, effectivement. Le metteur en scène, Éric Girard, donc, peut-être plus sobre qu'à l'habitude, n'oublie pas de cogner sur l'église et les institutions va-t-en-guerre. Car Jeanne la bergère, Jeanne la pucelle, a été jugée par l'église, non pas pour avoir combattu les Anglais, mais pour hérésie et blasphème. En une seconde, les comédiennes changent la farce en tragédie. Jeanne est une prisonnière de guerre. Une femme ayant porté des habits d'homme et à ce titre brûlée vive en place publique. Une résonance bien contemporaine.
Attention au bûcher, mesdames.
Jeanne Bergère de France est une création de la compagnie du même nom, Théâtre Orphonème.
Et est-ce que tu sais si on pourra la revoir, cette création ?
Pour le moment, pas de date fixée. Mais j'espère bien qu'on pourra la revoir, oui.
Oui, oui, je pense que c'est vraiment intéressant de revivre tout ça.
Pour l'agenda ce soir, je vous propose des dates de concert. Tracy de Sa, donc c'est une rappeuse lyonnaise que l'on a reçue dans les studios de Radio B également pour l'émission Il n'y a pas que 8 mars, qui sera donc diffusée le 8 janvier à 18h. Et donc cette jeune rappeuse sera en concert sur plusieurs dates, le 26 janvier au Craspec Musique à Lyon, le 2 février à la présentation des Inuits 2018 à la Bobine à Grenoble, et puis enfin le 13 mars, donc en première partie de Camplot, à la Marquise à Lyon. Donc n'hésitez pas à écouter l'interview de cette rappeuse, c'est très 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 intéressant.
Eh bien, la Fabrique de la Culture, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Alicia, merci Michel, bien entendu un grand merci à Pauline, notre technicienne.
Merci à toi Catherine pour l'animation.
Mais avant de nous quitter, Michel, tu as un dernier morceau de musique.
Oui, c'est Sundiata, l'exil, par le Rail Band du Buffet de la Gare de Bamako au Mali. Alors, on remonte au milieu des années 70. Ce groupe et ses deux fameux chanteurs et musiciens Salif Keïta et Mori Konté ont ouvert, dans ce Rail Band, de nouvelles voies à la musique de l'Afrique de l'Ouest post-coloniale en réussissant la fusion de la musique traditionnelle, notamment mandingue et bambara, à des interprétations modernes. Ce titre, Sundiata, dure près d'une demi-heure. C'est une très longue épopée dans la plus pure tradition des griots qui célèbre un héros des Malenqués, unificateur de l'empire mandingue. On n'en écoute qu'un morceau.
Mansalubana